courant d'air. C'est un festival qui a été mis sur pied par le Conservatoire Royal de Bruxelles et qui vise à promouvoir les jeunes artistes issus des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, j'ai voulu aujourd'hui faire une émission spéciale pour ce festival parce que dans ce contexte difficile pour la culture, je pense qu'il est essentiel de pouvoir mettre en avant la création de jeunes artistes qui se lancent dans le monde professionnel. Un monde qui n'est pas toujours facile. Alors, j'ai en studio toute une série de jeunes qui vont participer à ce festival organisé par le Conservatoire et par le Centre des Arts Scéniques. C'est un festival gratuit qui est entièrement en ligne. Donc, ça a déjà commencé donc le 20, 21 avril et ça se terminera le 2 mai. Tout au long de cette période, vous pouvez regarder, suivre tous les spectacles qui sont enregistrés et qui sont postés en ligne. Alors, il y en a déjà quelques-uns sur le site du Conservatoire. Et je pense qu'au fur et à mesure, les spectacles sont enregistrés et sont accessibles au public. Alors, ce sont des spectacles qui mêle à la fois de la musique, de la danse, ce sont des performances, il y a aussi les arts de la rue, donc c'est très varié, ça englobe un peu diverses disciplines, soit ensemble, soit séparément. Et peut-être que j'ai ces jeunes artistes en studio qui peuvent parler de ce festival et de ce que ça représente pour eux d'avoir une telle promotion. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut prendre la parole pour un peu présenter ce festival et se présenter lui-même par la même occasion.
J'y vais, il n'y a pas de problème. Donc bonjour, moi je suis Alessandro Zenon, donc, et je suis aussi élève au conservatoire. En quoi le festival est une opportunité pour nous, mais comme vous l'avez dit, c'est une opportunité qui nous permet en fait de nous produire, de réaliser nos projets, et d'être aussi visible, d'être vu. Par des programmateurs, mais aussi par un public qui, aujourd'hui, je pense, peut être en manque de création, peut être en manque de spectacle. J'entends moi de plus en plus les gens qui nous disent « Ok, quand est-ce que ça reprend ?» Et on leur dit « On ne sait pas ». Donc, je pense que le festival est une belle opportunité pour prendre l'air, voilà, comme le festival le dit dans son nom. Voilà.
Alors, il a commencé déjà le 21 avril avec un spectacle qui s'appelait Small Talk, qu'on peut toujours voir, donc je l'ai déjà dit, hein, il est en ligne. Et il y a déjà eu aussi un autre spectacle, donc Small Talk, c'est plutôt, je dirais, une performance de la scène, des arts de la parole. Et il y a eu un autre spectacle que l'on peut aussi voir en ligne, c'est Tandem 66. Là, c'est un duo musical et c'est un spectacle qui est très original parce qu'il s'agit de quatre musiciens qui ont traversé le continent américain en 2014 à vélo. Donc en bravant tous les éléments naturels. Et ils ont traversé les Rocheuses, la Sierra Nevada, la Vallée de la Mort, parfois dans des conditions atmosphériques extrêmes, hein, avec 50 degrés parfois. Et c'est un concert qui raconte un peu cette histoire. Donc ces deux musiciens, un pianiste et un clarinettiste, Julien Eléouet et Xavier Locus, et qui raconte un peu les anecdotes de ce voyage et s'est illustré musicalement. Donc là aussi, on peut voir ce très beau spectacle en ligne avec des morceaux musicaux parfois à découvrir ou à redécouvrir.
Superbe.
Alors, ils ont traversé effectivement 14 États. Ça a duré 66 jours. Ils ont fait 6262 kilomètres, hein, ils le disent dans leur spectacle. Il y a un autre spectacle qu'on peut encore aussi redécouvrir, c'est « Elle est super, ta sœur ». Je ne sais pas si quelqu'un de vous l'a vu.
Moi,
oui.
Je l'ai vu et il m'a beaucoup plu. Je le trouvais très chouette. Très touchant. Bon, je sais pas si j'ai...
Oui. C'est en fait une famille où il y a eu une petite fille trisomique. Et donc, on rencontre un peu ce rapport à la différence.
Et je crois qu'il y a un peu de documentaire aussi là-dedans parce qu'elle interviewe aussi pas mal sa sœur. Et à un moment, elle lui demande « Tiens, ça te fait quoi que je fasse un spectacle sur toi ?» Ah non, c'est très chouette.
Et il y a encore un dernier spectacle. Après le reste, je crois que c'est publié au fur et à mesure. Et le dernier spectacle qu'on peut découvrir, c'est « Viens, on se tire ». Et là aussi, c'est très spécial parce que c'est un spectacle de marionnettes, en fait. Hein. Il y a deux manipulateurs, une marionnette, un plateau basculant. Et en fait, il y a une petite surprise à la fin. Il faut aller voir le spectacle. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu aussi.
Oui, pareil. Très très chouette, très très poétique.
C'est plein de poésie.
Il y a encore un autre spectacle qui est disponible, que j'ai regardé hier soir, c'est Avid. Oui. C'est une interprète qui danse et qui raconte son histoire avec un guitariste derrière qui fait de la très belle musique. C'est très touchant, c'est très très beau. La partie danse est vraiment incroyable, la scénographie est très belle. Je le conseille vraiment à tout le monde.
Et je rappelle qu'il faut aller sur le site du Conservatoire Royal.
Oui, alors, c'est aussi disponible sur YouTube. Hein,
oui, et puis si on veut s'inscrire vraiment sur un spectacle à telle heure, machin, on va plutôt sur la page Facebook du Courant d'Air. Mm-hmm. Et on va chercher l'événement. Et sur l'événement, il y a un lien pour s'inscrire, mais pas forcément sur le site du Conservatoire.
Alors, ce festival, il est né en 2005. C'était... au sein du conservatoire, une ASBL qui s'appelait les spectacles du conservatoire. Donc d'abord, c'était les arts de la parole. Et puis en 2010, se sont joints les musiciens. Et depuis lors, donc, c'est un festival qui arrive en fin de parcours scolaire pour présenter un petit peu des créations. Est-ce que ce sont des créations aussi qui sont tout à fait propres aux comédiens? Je veux dire, texte et interprétation. Ça se passe comment, ce travail, quand vous préparez un spectacle pour le festival? Ça naît comment, les idées, comment...
Ça dépend un peu. Enfin, chaque personne travaille différemment. Parfois, ça peut partir d'impro. Parfois, ça peut partir d'écriture de plateau pendant des impros. Parfois, c'est du travail beaucoup à la maison. Quelqu'un qui dit « moi, j'écris juste et vous, vous jouez ». Ça dépend vraiment de... Et puis, ça peut fluctuer aussi au fur et à mesure de l'année. Voilà.
Et donc, ça vous permet aussi de vous initier un peu à tous les aspects d'un spectacle. Je suppose que vous, ça passe par l'écriture, la conception, la mise en scène aussi, par les élèves, choix des musiques...
Mais au-delà de ça, ça passe aussi par le travail, le fait d'aller tous les jours, de se mettre en disponibilité sur le plateau avec les partenaires, mais c'est pas rien, en fait. Je pense que, justement, le secteur culturel est vite considéré un peu comme les gens qui font du travail, mais c'est pas toujours du travail. En fait, c'est tout à fait le contraire. On est là, on se dépense à fond sur le plateau, on donne de toute notre personne. Et je pense que le Festival Courant d'Air nous permet de nous initier dans ce mood aussi, dans ce style de travail, en fait, à laquelle on doit se préparer plus tard, quoi. Donc, voilà.
Alors, il y a des lieux aussi qui sont mis à la disposition du festival. Je pense que on peut, en temps normal, on peut voir des spectacles au musée Magritte, au Parlement bruxellois, à Musique Village, sur la Grand Place aussi. Donc, ce sont des lieux partenaires du festival où...
Tout à fait, c'est des lieux qui ouvrent leurs portes et qui mettent à disposition leurs locaux pour promouvoir la jeune création. Il y a aussi le théâtre Poème, il y a plusieurs lieux comme ça.
Sur la Grand Place, il doit y avoir notamment la parade de Commedia dell'arte par Christophe, qui devrait se faire le 8 mai. Mais en effet, cette année, vu les circonstances sanitaires, il y a peu de choses qui se font en public. La majorité des spectacles, comme vous l'avez dit, sont en ligne. Mais si tout va bien, si ils ont leur possibilité, on verra la parade courant d'air. Donc, sur la Grand Place, le 8 mai, je crois.
Je me demande si elle n'est pas déplacée.
Ah, écoute.
Peut-être l'ULB. Je pense que M. Pivin m'a dit ça.
Ah, bah, écoute, il faudra reprendre les informations. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont géniaux et que Christophe les encadre d'une manière géniale aussi.
Oui, oui. Alors, il faut rappeler que ce festival est toujours gratuit. Hein. C'est une des spécificités de ce festival, c'est qu'il est accessible à tous. Donc, tous les gens qui aiment la culture peuvent y en profiter, je veux dire. Est-ce que ça n'a pas été un peu difficile aussi pour vous cette année en tant qu'étudiant des arts de la scène? Parce que les arts de la scène, finalement, ce qui est important, c'est le public, la réaction du public et le contact avec le public. Beaucoup de théâtres maintenant qui ont préparé des spectacles les mettent en ligne, mais on entend dire c'est pas vraiment le but. Le but, c'est qu'il y ait des gens. Et c'est un spectacle vivant, c'est pas une vidéo. Donc, il y a une frustration quelque part, quand même.
Elle est énorme, la frustration. Enfin, je sais pas vous, mais chez nous, elle est. Nous, ça fait 2 ans qu'on rêve à ce spectacle avec Nora, à peu près. Et puis de savoir que cette année, pour le jouer, il y aura personne avec qui partager ça en vrai, c'est une frustration énorme. Après, bon, c'est moins que rien, mais. J'espère que ça ne deviendra pas la norme, quoi. Enfin, il est hors de question que ça devienne la norme. C'est un très bel outil pour compenser et pour qu'on puisse quand même essayer de partager, de travailler, de rentrer en contact les uns les autres, les unes les autres. Mais que ça ne devienne pas la norme, ça c'est pour moi essentiel, quoi. Vraiment.
Alors, est-ce que vous avez quand même des retours? Il y a un échange avec cette... Je veux dire, ces postes en ligne.
Donc, il y a un retour. Maintenant, en fait, je vais laisser parler quelqu'un d'autre parce que je n'arrive pas très bien à formuler ma phrase.
Il y a des retours, il y a des gens. En fait, ce que, quand on peut voir la vidéo, il y a aussi un chat sur lequel les gens peuvent écrire. Donc, en fait, on peut voir les réactions d'un public qui est derrière son écran et qui regarde. Et même si c'est une vidéo, mais... Malgré ça, c'est une autre façon de diffuser le spectacle. Bien sûr que ça ne devient pas la norme, mais finalement, ce spectacle, il peut aussi voyager. Les gens peuvent voir ça, même s'ils sont au bout du monde. Et en temps réel, ils ne seraient peut-être pas venus jusqu'à Bruxelles nous voir. Donc, c'est une autre façon de faire. Maintenant, évidemment, c'est une énorme frustration parce que ce n'est pas du tout la même chose derrière son écran. Mais malgré tout, on arrive à diffuser notre art, diffuser... de l'amour, diffuser de la relation, diffuser du partage, et ça pour nous c'est pour ça je pense qu'on fait ce métier. Et donc finalement ça, même si on fait ça et ce n'est que ça, mais c'est ça qui donne du sens à nos vies en fait.
C'est la première fois que les spectacles sont en ligne en fait.
Oui.
Parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui voient les spectacles. On voit 300 parfois plus de gens qui ont vu le spectacle. Finalement, ça fait plus de gens que si c'était en salle.
Oui, certainement, ça fait plus de gens que si on était en salle. Après, donc, il va y avoir 300 vues, mais ça va être vu qu'une seule fois. Alors que quand on est en courant d'air où tout le monde vient voir, on va jouer 3 soirs. Donc on pourra comptabiliser un truc comme 150 personnes. Donc c'est un peu moins de la moitié. Mais les gens seront venus voir en live, auront vu la qualité réelle. Et donc, un jour, on pourra montrer ça devant beaucoup plus de personnes. Et ici, c'est bien, mais... Enfin, pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est une étape. Ça peut pas être un point final, le digital, en théâtre.
Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être un plus? Ça peut se généraliser, le digital, où on va jouer un spectacle en live et puis il y aura une vidéo qui pourra être accessible, ou bien ça va empêcher la diffusion du spectacle futur?
Personnellement, je trouve ça peut avoir des avantages. Parce que là, il y a quand même beaucoup de spectacles pour Canberra, même si ça manque d'habitude. Et si on en a raté un, qu'on n'était pas là le jour même, on peut le revoir chez nous, à notre aise. Et ça, je pense que c'est quand même un grand plus. Du coup, moi, je me rends compte que je peux voir beaucoup plus de spectacles que d'habitude si j'avais d'autres occupations, d'autres obligations à l'heure de ces spectacles. Donc, il faut peut-être trouver un système hybride, même dans le futur, qu'il n'y aura plus de pandémie, pour filmer les spectacles qui sont joués en live et qu'après, ils puissent être montrés. Mais ça pose des problèmes techniques, évidemment, parce que on a bien vu, il y a des caméras, il faut vraiment organiser ça. S'il y avait un public, il y a la question de comment est-ce qu'on ferait pour vraiment filmer ça bien et que ce soit après montrable sur Internet. C'est des questions très intéressantes.
Ça pose aussi la question du droit d'auteur, parce que là, c'est gratuit et c'est promu par le festival. Enfin, c'est le festival, donc par exemple, les œuvres qu'on joue, nous, on joue une pièce d'Alessandro Baricco. Enfin voilà, c'est toutes ces questions de droit d'auteur qui ne peuvent pas non plus être complètement oubliées.
Alors, cette 15e édition, c'est un peu une édition anniversaire qui est un peu spéciale, puisque à côté des nouvelles créations, il y a une rétrospective des moments forts des autres spectacles qu'il y a eu tout au long des éditions du festival. Et par exemple, on peut revoir un court-métrage qui s'appelle Anime de la réalisatrice Noa Choukrala sur la question du genre aussi.
Ah bon.
Oui, par exemple, moi je l'ai trouvé sur le... je n'ai pas trouvé la date, mais il y a une partie rétrospective. Et alors, il y a des prix aussi. Donc, c'est un festival qui est primé. Il y a un prix des spectateurs, et ça, il faut le dire à tout le monde, parce que, en fait, les internautes peuvent voter pour le spectacle qui va se retrouver dans la promotion suivante.
Oui, et justement, c'est à ça aussi que servent les inscriptions en soi sur les spectacles. Mais au-delà de ça, je pense que ici, on s'en moque un peu sur le coup de ce prix qui devrait être attribué, parce qu'on a déjà ce plaisir et cette chance de jouer, d'être sur la radio Panique. Enfin voilà, le prix c'est très secondaire. D'abord, c'est l'humain et c'est ce que le théâtre veut véhiculer, je pense. Hein. C'est pour ça qu'on fait le festival.
Bon, il faut dire aussi qu'il y a plus ou moins une vingtaine de projets dans ce festival. 23. Et certains ont été, 23, créés en pleine pandémie aussi. Donc, et d'autres étaient déjà initiés avant le confinement. Alors, on parle un peu de la programmation. Il y a des spectacles de musique, il y en a déjà sur le site, il y en a un qui va se jouer aujourd'hui à 17h, donc il va être présenté aujourd'hui à 17h, ça s'appelle Fantasticus, c'est un peu un mélange musical et voix, puisque ça mêle à la fois l'expression corporelle, le son, l'espace, deux musiciens et une danseuse, donc ça c'est à 17h. À 20h, on est toujours dans un spectacle musical avec un spectacle qui s'appelle « On se souviendra d'elle » au pluriel. C'est sur les compositrices de l'époque baroque et donc c'est un spectacle qui présente des madrigaux, des airs, des cantates. Et demain, à 20h, il y a un spectacle qui s'appelle « Novecento ». Alors ici, j'ai deux représentants de ce spectacle. De Novecento, j'ai Violette Schlesing. Violette, bonjour.
Bonjour.
Et Emmanuel Debatti, qui ont déjà pris la parole.
Oh, bonjour.
Alors, c'est une adaptation, vous l'avez dit, d'une pièce d'Alessandro Baricco. Je vais vous demander d'en parler un peu, puisque vous connaissez bien la pièce, et comment vous avez adapté cette pièce maîtresse de Baricco.
Eh bien, c'est l'histoire d'un pianiste qui est né sur un bateau, le Virginian, abandonné par ses parents qui migrent aux États-Unis. Et il n'est jamais descendu de ce bateau. À 8 ans, on découvre qu'il joue du piano comme un génie. C'est magnifique. Et il devient pianiste sur ce bateau. Et c'est l'histoire de cet homme qui joue avec sa musique et qui est en complète osmose avec son piano. Qui est interprété par Emmanuel Debatti.
Et vous en avez fait une adaptation.
On en a fait une adaptation. En fait, à la base, cette pièce est écrite pour un homme, trompettiste. Et donc, on a changé ce texte pour une femme ex-chanteuse jazz. Et dans le texte original, le Novecento, le pianiste, n'a pas la parole, n'a pas de texte, n'a pas la... Voilà, il n'a pas de réplique et donc on a transformé toutes les répliques qui étaient dites de lui en il dit les répliques en fait. Au lieu de dire il disait la la la, le pianiste parle, prend la parole et donc on en a construit d'un monologue, on en a construit un dialogue. Voilà.
Alors, cette ex-chanteuse de jazz, tu peux un peu parler d'elle aussi quelle personnalité vous lui avez donnée et comme pourquoi avoir changé en un rôle féminin. Le metteur en scène n'est pas là, mais vous pouvez peut-être dire comment c'est venu cette idée de...
Alors, cette idée, elle est venue parce que j'ai découvert ce livre, on m'a offert ce livre, et quand j'ai à la première lecture, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et... je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Enfin, ça a été une évidence. Et là, je me suis dit, et j'ai découvert que c'était pour un homme. Enfin, en fait, voilà, à la lecture, j'avais lu en diagonale, j'ai trouvé que les mots étaient trop beaux. Je me suis dit, mais non, mais en fait, je dois le dire. Et quand j'ai découvert que c'était pour un homme, je me suis dit, bon, OK, je vais le féminiser, c'est pas grave. Et le fait que ce soit un musicien, je fais aussi de la musique et je me suis dit, bon, bah, je vais le transformer en chanteuse parce que je chante. Et à ça, j'ai demandé à Emmanuel qu'on était en cours ensemble. Donc, du coup, je lui ai proposé le rôle qu'il a accepté. Il a été tout de suite enjoué à cette idée. Et après, j'ai présenté le projet à Victor qui m'a, lui, dit « Ok, super, je te mets en scène, banco ». Et on est parti là-dessus à trois dans cette aventure. Voilà comment c'est plutôt parti. On n'a pas décidé de... Enfin voilà, voilà comment c'est la genèse de ce projet.
Est-ce que vous avez gardé aussi la trame ou le texte de Mariko? Vous l'avez adapté ou vous en avez fait un personnage totalement autre?
Non, on a gardé le texte complètement. On a juste féminisé et évidemment coupé une bonne partie du texte pour que ça tienne dans la durée du festival.
Donc c'est un spectacle qui est musical aussi, quelque part.
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Donc Violette m'a proposé ça en disant j'aimerais que tu interprètes Novecento et que du coup tu joues du piano, parce que je suis élève au département de jazz, en piano jazz. J'ai fait du théâtre par le passé et là je m'y reconnecte un petit peu de nouveau. Donc ça m'a vraiment emballé. La musique est un mélange de morceaux qui existent déjà, des standards de jazz ou des morceaux de Scott Joplin par exemple, et d'autres qui sont de ma création, qui sont comme des thèmes en fait, comme on pourrait en entendre au cinéma ou dans les jeux vidéo. Et même quand c'est des morceaux qui existent déjà, nous les réinterprétons en jazz. Ce qu'on fait, c'est toujours prendre des morceaux qui sont peut-être qui ont peut-être été créés dans les années 30 et puis les réinterpréter à notre sauce, en faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire. Et en plus de ça, on passe aussi quelques autres morceaux, c'est des petites surprises, des enregistrements que je pense que les auditeurs apprécieront.
Et on a eu un petit problème des techniques en début d'émission, donc on n'a pas pu présenter les bandes son. Est-ce que vous en avez peut-être une avec vous, quelque chose qu'on peut faire entendre à nos auditeurs?
C'est une bonne question.
Oui.
Je vous laisse un peu réfléchir et... on va peut-être le diffuser par là.
D'accord, on regarde ça.
Voilà, alors le temps qu'on trouve le morceau, est-ce que tu peux un peu nous parler de la personnalité de cette chanteuse de jazz?
Elle est...
Parce qu'en fait, le spectacle, c'est aussi... ça parle du voyage, du dialogue, de la légèreté de l'existence. Donc, je suppose que tout ça fait partie intégrante de la personnalité de cette chanteuse.
Tout à fait. C'est une femme qui a voyagé sur ce bateau et qui a chanté avec Novecento. Et on est vraiment parti de là, de cette connexion qu'elle avait avec ce pianiste, de cette amitié qui est très très forte entre deux, parce qu'elle est sa meilleure amie. C'est dit dans le texte, il est son meilleur ami, mais je suis sa meilleure amie. Et cette franche amitié a construit vraiment... Là, on est parti vraiment de la relation qu'on avait entre nous deux. Et là-dessus, elle est vraiment fascinée par cet homme avec lequel elle joue et qui fascine tant et qui est absolument incroyable. Et donc, ça, c'est pas finalement sa personnalité qui est la plus importante. Enfin, elle est importante, évidemment. Mais ce qui est le plus important... Elle raconte toute l'histoire de Novecento et c'est tout cet être-là qui joue du piano et qui est juste dans un monde imaginaire construit par des touches et des notes de musique qui sortent de nulle part et qui joue, mais elles n'existent pas avant que lui ne les joue. Il n'entend que les musiques qui viennent au fur et à mesure sur ce bateau du monde entier et lui les joue et il les réinterprète à sa manière, mais il n'est jamais descendu sur Terre. Il est sur un océan sur un piano. Et c'est ça sa maison, c'est ça son... Donc en fait, moi je raconte vraiment cet homme. Je suis un peu une narratrice qui raconte cet homme, qui raconte ce génie, qui raconte ce pianiste, qui raconte cette musique aussi. Mariko utilise des mots pour décrire une musique qui sont absolument fantastiques. C'est un bonheur de dire ces mots. La manière dont il décrit la musique... voilà, c'est très très beau à dire et voilà ce que je suis. Finalement, c'est un peu un pied de nez, mais juste, c'est une excuse, mais pour vraiment raconter Novecento. Ma personnalité, elle n'est pas importante. Évidemment, c'est moi qui parle pas mal, mais au final, c'est vraiment Novecento qui compte.
Mais tu chantes quand même.
Oui, bien sûr, oui, je chante aussi.
Elle chante très bien.
Merci, Mélanie.
Alors, tu peux peut-être un peu nous présenter le morceau que tu as choisi de passer.
En fait, je dois vous avouer que nous n'avons rien de très près. On a des enregistrements ici. C'est juste du piano. Hein.
Oui, c'est juste du piano. Par contre, on a que les enregistrements.
En fait, on a, pour être honnête, je ne sais pas très bien ce qu'on peut montrer.
Tu ne l'as pas donné, là?
Non, parce que là, ce qu'on a, c'est sur nos téléphones, c'est des enregistrements de travail où je fais les accords pour que Violette puisse travailler dessus pour les travailler tout ça. Du coup, je ne sais pas. Si... Après,
ou une petite chanson en live.
Est-ce que vous avez un piano? une improvisation.
Oui, je pourrais vous faire une improvisation, mais ça va pas être vraiment comment révélateur de ce que Pessac spectacle peut vous. D'accord. Va pouvoir vous amener.
Alors, les chansons que tu chantes, elles ont été choisies aussi, donc par toi ou...
On les a choisies ensemble. En fait, on a beaucoup, Emmanuel et moi, on a beaucoup créé ensemble ce spectacle. Et c'était vraiment... on en a parlé, on a choisi, on est passé par différents morceaux. Et finalement, oui, là, on chante... c'est l'ouverture de ce spectacle. Se fait par avec April in Paris. Et donc on chante le thème et c'est une musique qu'on va retrouver. Enfin voilà, toute la construction musicale a été très réfléchie parce que pour nous ce spectacle c'était bien sûr du théâtre, mais du théâtre qui raconte la musique. Et donc la musique pour nous, elle est vraiment notre fil conducteur tout au long de ce spectacle. Comment elle à 17 ans, elle fait une première impro devant un type de la compagnie, puis ensuite elle chante avec lui, il chante du blues, il chante des ragtime, du jazz. Finalement, comment et ce spectacle aussi a valeur historique. Enfin, l'histoire ne s'est pas vraiment passée, mais on est avec l'histoire et donc on passe aussi des enregistrements originaux historiques. On a choisi des morceaux qui se sont, enfin par exemple, April in Paris, il a été composé en
1932 ou 33.
Voilà, donc en fait on est aussi sur l'histoire du jazz même. Donc ce spectacle raconte et à la fois Novecento et à la fois comment ça s'est passé à la Nouvelle-Orléans, le Mississippi, Jelly Roll Morton, voilà, tous ces grands.
Voilà, alors on peut maintenant l'écouter, cet extrait. C'est quel morceau ?
Extrait. Donc là, c'est une composition dans la pièce. À un moment, il y a une tempête. Nous dansons avec l'océan, avec le piano. Et donc là, c'est la musique que j'ai proposée pour ce passage-là.
Donc, extrait de Novecento. Voilà, donc c'est une danse avec l'océan, danse musicale.
Une valse.
On peut rappeler alors qu'on peut voir ce spectacle à partir de demain.
Tout à fait.
20h.
Oui.
Il sera en ligne sur la chaîne YouTube du Conservatoire de musique.
Oui. C'est ça. Et vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire sur le lien Eventbrite qu'on peut trouver sur l'événement Facebook. Ou la page du conservatoire de programmation. Voilà, si vous voulez vous inscrire pour être sûr de ne rien rater.
Voilà. Et si vous êtes vraiment occupé, bah vous pourrez le revoir. Alors, la vidéo sera...
Rien ne vaut une première.
Et le sentiment de se sentir tous ensemble à 20h, pas dans les salles, mais devant son écran, en communion, à voir du théâtre.
S'inscrire donc sur la chaîne YouTube.
Sur le lien Eventbrite. Il y a un lien Eventbrite sur lequel on peut inscrire, on peut acheter sa place gratuite. Voilà.
Alors le 27, il y a encore un autre spectacle musical. C'est un voyage avec du violoncelle. Et c'est un voyage entre rock, jazz, musique traditionnelle de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Inde. Ça, c'est le 27 avril à 21h. Il y a beaucoup de musique dans le festival, il faut dire. Hein. Beaucoup de spectacles musicaux. Il y a aussi du spectacle jeune public, le 28 avril, avec Hansel et Gretel, par la compagnie Vivre en folle compagnie. Donc, c'est peut-être un spectacle à redécouvrir, découvrir ou redécouvrir. À part les spectacles pour enfants, on peut parler d'un spectacle qui s'appelle « Être » le 29 avril, d'après des textes de Céline Delbecq. C'est aussi quelque chose de très spécial. Donc, c'est un voyage au cœur de l'enfance avec deux comédiens. Et c'est un spectacle de...
Ce sont deux comédiennes.
Deux comédiennes, oui. Et Être, avec un H, ça s'écrit comme un arbre, mais en fait, on se rend compte que c'est une petite fille, en fait. Le 30 avril, et là, ça nous concerne ici en studio, un spectacle qui s'appelle « Cafards, bourdons et autres êtres nuisibles ».
Tout à fait.
Alors, j'ai en studio Alessandro Zenone.
Bonjour.
Qui représente le spectacle et qui va nous en parler un peu de ce spectacle sur ces animaux, de ces êtres nuisibles.
Je ne sais pas si on peut dire que la pièce parle d'animaux, mais en tout cas, des êtres nuisibles qui nous sapent le moral. Ça, je pense que c'est un peu l'idée. Je devais être ici avec Léa de Rouardom, ma metteuse en scène, qui n'a malheureusement pas pu venir. Et je joue dans le spectacle avec Marie Lernot. Donc voilà. Et alors, le spectacle, ça s'appelle Cafard Bourdon et autres êtres nuisibles. Mais c'est l'histoire d'un couple, en fait. C'est l'histoire d'un couple, d'un jeune couple, qui a tout pour paraître ce qu'on pourrait appeler caricaturellement le couple idéal, avec une famille, donc deux parents et des enfants. Et en fait, à un moment donné, ils sont assis sur leur certitude et ils se rendent compte que les choses ne marchent pas aussi bien. Ils se rendent compte que tout n'est pas fluide. Et en fait, les questions se posent. Tiens, mais on est un couple et quoi alors? On est 1 plus 1 ou on est vraiment 1 ensemble? Et alors, à la base, les 1 et 1 plus 1, mais quoi? Il y en a qui ont des rêves, il y en a qui ont des aspirations. Et quoi alors? Est-ce qu'on doit tous les mettre de côté pour que le couple se fasse? Ce type de questions qu'on essaie d'aborder avec toute notre jeunesse, je pense, notre inexpérience aussi peut-être, mais notre volonté de comprendre comment tout se déroule, j'ai pas envie de dire comment on survit au couple, mais comment on le crée en fait, comment on le fait sur peut-être des bases solides, comment ça continue, comment l'amour perdure et qu'il ne devient pas un poids qu'on s'attache et qu'on se trimballe au fur et à mesure et qu'on se dit juste à la fin, passe-moi le sel s'il te plaît, qu'on est à table et que c'est la seule discussion qu'on aura de la journée. Quoi.
Alors pour écrire ce spectacle, vous êtes inspiré aussi d'un monument.
Tout à fait. Nous sommes partis sur les scènes de la vie conjugale de Ingmar Bergman et nous sommes passés aussi par Clôture de l'amour de Pascal Rambert, aussi une pièce magnifique. Et pour tout vous raconter, on était à Orval avec Léa. Et elle avait le livre, enfin le texte donc des scènes de la vie conjugale, et on était une belle bande de comédiens, une bande d'amis en vacances. Et Léa propose de lire le texte. Ok, on y va, c'est parti. Et en fait, moi je l'ai lu, et sur le coup, j'ai direct ressenti un amour pour ça, mais une compréhension aussi, une compréhension des deux individus qui étaient dans la pièce, de ce qu'ils ressentaient, de pourquoi à un moment donné ils étaient en phase avec leur partenaire et parfois pas, pourquoi à un moment donné il y a des chocs. Enfin bref, en tout cas le texte m'a pris et c'est comme ça que ça a démarré le projet, que je dis ok, on pourrait le monter à courant d'air, ok, ben au final nous y voilà. Voilà. Que dire de plus? Ben donc, c'est écrit par Léa de Rouardom. On a travaillé sur une écriture de plateau comme canevas, donc les scènes de la vie conjugale. Et je joue donc avec Marie Lernot, formidable comédienne. Léa et Marie sont alliadées. Donc, il est vrai que le Festival Courant d'air, il rassemble, comme vous l'avez dit au début de l'émission, il rassemble toutes les écoles d'art. Et je pense qu'on trouve aussi notre richesse là-dedans. En tout cas, moi, j'y ai trouvé la mienne. Et que dire, ben, c'est le 30 avril à 19h. On y a mis tout notre cœur. On espère que ça passera, en fait, et qu'on sera compris et peut-être apprécié.
Mais sûrement. Déjà, d'être parti d'un texte, et en tout cas d'une vision du couple d'Ingmar Bergman, c'est déjà un bon début, je crois, donc, et c'est inspirant.
Mais c'est inspirant, mais si je puis me permettre, il y a un côté où quand on a lu la pièce, avec toute la puissance du texte de Bergman, il y avait un côté où on voulait le réactualiser, parce que ça faisait, c'était une vision du couple que nous, on trouvait légèrement archaïque. Donc on voulait un peu remettre nos idées au goût du jour et voir comment elles se confrontaient avec le texte. Et nous, à un moment donné, on fait des improvisations, voilà, on est totalement libre, et comment est-ce qu'on prend la matière et on la jette et on la ravale et on la prend et on la diffuse. Voilà. C'est un travail en tout cas qui nous a été très intéressant, je dois le dire.
Il faut dire aussi que la notion de couple aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que ce qu'elle était
à l'époque
d'Ingmar Bergman.
Tout à fait. Et je voudrais juste terminer en disant que justement, le spectacle commence comme ça. Il commence en disant, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une femme. Ça aurait pu être l'histoire de deux hommes, l'histoire de deux femmes, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Johan et Anna dans la pièce, mais ça aurait pu être l'histoire d'Emmanuel qui est ici avec Violette, ça aurait pu être l'histoire de Salomé avec Nora, ça aurait pu être n'importe qui, en fait. C'est juste qu'il y a ce côté où aujourd'hui, c'est Johan et Anna, demain, qui sait ? Voilà.
Alors, peut-être tu peux parler aussi un peu du travail que vous avez réalisé ensemble. Comment, donc tu dis, on est parti d'impro, d'une écriture de plateau. Pour arriver à monter un spectacle, après, ça se déroule comment qu'est-ce que ça t'a apporté aussi, ce travail, et comment tu vois ton métier de comédien comme un créateur ou comme un... On n'est plus maintenant des comédiens comme on était des comédiens avant.
En effet.
On est plutôt des créateurs.
En effet. À titre personnel, je pense que c'est la première fois où je me suis vraiment senti aussi libre de créer. Il y avait une énorme liberté qui était là. Et en fait, la matière de Bergman, on a pris les canevas, donc on est parti des situations. Et on les a transformés comme on voulait. Et il y a un côté où pour moi c'était jouissif. C'était jouissif parce que je pouvais me tromper, mais me dire ok, on travaille, on met tout sur le côté et on recommence demain, on voit comment ça se fait. Et je tiens à dire franchement que la liberté que j'ai eue sur ce travail était pour moi revigorante à un point que je ne saurais le décrire. Et voilà, au fur et à mesure, donc on a fait nos improvisations, on a fait nos tests. Léa a commencé à écrire au fur et à mesure. Nous aussi, on a écrit un peu une écriture automatique. On a vu comment on agençait les choses. Tiens, et au final, une scène se crée, puis l'autre, et puis on a un canevas. Mais voilà, le texte s'est écrit. On a modifié encore et encore nos phrases, l'ordre des scènes. Mais que le plus important, c'était notre rapport à Marie et à moi, celui qu'on travaillait. Et en tout cas, moi, j'ai pu apprendre beaucoup parce que je connaissais Léa d'auparavant et donc on se faisait confiance aussi mutuellement. Elle avait l'habitude de travailler avec Marie, mais moins avec moi sur le coup. Et bien voilà, ça a été aussi un choc, comment on arrive à se comprendre en fait entre plusieurs univers qui sont là et qui se confrontent, qui créent un autre univers justement. Et en tout cas, cet univers qui a été créé, bah, tout ce que je peux dire, c'est qu'on l'aime beaucoup et qu'il nous tient à cœur.
Donc on rappelle les dates ?
Alors, on est diffusé le 30 avril à 19h, donc, sur le compte YouTube du Conservatoire. Et donc, comme Violette l'avait rappelé, par inscription sur Eventbrite, via la page Facebook aussi du Conservatoire. Du Festival Courant d'Air, pardon.
Alors, le 30 avril, on parle beaucoup d'amour, avec un autre spectacle aussi qui s'appelle Un morceau de joie. Et j'ai en studio Salomé Puzna et Nora Piazza, qui représentent ce spectacle. Il y est question d'amour aussi, donc un morceau de joie, qu'est-ce que c'est ? Et comment, vous avez aussi eu là un travail en amont qui a été assez important pour réaliser ce spectacle ?
C'est le moins qu'on puisse dire, oui, je pense.
Mais oui, parce que nous, ça fait 2 ans avec Nora qu'on rêve à ça. Ça fait 2 ans, ça revient à la première année où on s'est rencontrés au conservatoire, première année du conservatoire où j'ai écrit un texte pour un seul en scène, donc une petite capsule qu'on doit faire en cours, qui parlait d'amour donc, Et puis j'avais envie furieusement de continuer à travailler dessus, mais sans moi jouer. Et donc j'ai proposé à Nora, on s'est rencontrés vraiment comme ça aussi, de jouer ce bout-là et moi de mettre en scène. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'incroyable ce soir-là, quoi. On s'est dit, c'est quelque chose d'un peu plus grand que nous, un peu trop grand pour nous, ce thème-là. Mais on va y essayer d'y mettre les deux pieds, les deux mains, tout. Et à partir de là, en fait, on a dit, OK, il faut qu'on continue, en fait. Ça ne suffit pas de faire 10 minutes, une scène de 10 minutes. Et donc, on est parti à la chasse. Après, Nora est d'abord partie à la chasse, d'ailleurs,
en fait,
de témoignage.
Ouais. En fait, moi, personnellement, de voir le public qui se sentait si, comment dire, qui s'identifiait tellement à un texte écrit par Salomé, qui n'a rien à voir, c'est pas leurs histoires ni rien, m'a posé vraiment question. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose, j'ai besoin de réponse là-dedans. Comment ça se fait que les gens s'identifient tellement? Comment ça se fait que c'est si puissant? Et donc, c'est comme ça que... et puis, c'était pour nourrir le travail. J'avais commencé un peu sans y penser à enregistrer des copains, des copines en Italie, parce que donc, je suis d'origine italienne et mes amis... Beaucoup habitent là-bas. Et petit à petit, les questions se sont multipliées, si on veut. Parce que dans les façons de parler de toutes les personnes, de tous les âges, il y a beaucoup de différences, mais il y a aussi un langage assez commun, parfois des mots qui se ressemblent. Donc ça a été les premiers questionnements, mais pas les seuls. Je te laisse.
Donc c'est un spectacle qui est construit à partir de témoignages.
Ouais.
Sur des histoires d'amour.
Ouais,
et vous êtes rendu compte que finalement, il y a quelque chose de commun à toutes les histoires d'amour.
Ouais. Il y a une force vive commune à toutes les histoires, et des fois de personnes qui sont d'un bout à l'autre de la Terre, ou qui n'ont pas du tout le même âge, qui n'ont pas du tout le même vécu. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une forme de langage commun qui s'est installé, quoi. On a retrouvé dans des témoignages, des fois, des mots... Des phrases exactement les mêmes d'un témoignage à l'autre, des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne se sont jamais vues. Et on a dit, c'est pas possible cette force-là, quoi. Et ça, ouais, c'est ça qui nous a inspiré beaucoup, vraiment, et qu'on a pris à bras le corps et qu'on a voulu mettre sur un plateau, quoi, et dire, c'est pas possible, on peut pas être seulement Nora et moi dans nos petites salles de classe à écouter ces histoires-là, quoi. On a envie que ça dépasse les murs, quoi, que ça fédère, en fait, quoi. C'est voilà, la langue universelle de l'amour. On avait envie de la partager. Et puis, je crois qu'en plus, avec les événements voilà, qu'on connaît, la crise sanitaire, d'autant plus de dire on n'oublie pas, hein, on n'oublie pas les copains et les copines. OK, on est loin, OK, c'est pas facile, le lien social, on est en train de le faire mourir à petit feu. Mais nous, on veut pas, en fait, on n'accepte pas. Et donc, rappelons-nous vraiment encore et encore que ce lien existe et qu'il doit exister.
Quand on parle d'amour, en fait, on ne parle pas seulement de couple.
Non.
Donc, c'est un peu... vous prenez l'amour au sens large.
On parle, je trouve que c'était assez bien dit, on prend l'amour au sens de force vive, au sens de force qui rassemble, qui réunit vraiment les gens. Et en réalité, ce qui est... donc ce spectacle qui a posé tellement de questions, au début c'était « pourquoi est-ce que ça se ressent, machin, nan, pour un moment devenir « comment ça se fait que c'est si puissant ?» comment ça se fait que ça te change dans ton état, même juste d'en parler avec un inconnu? Comment ça se fait, tout ça? Et c'est là qu'est arrivée...
Pauline Cernels.
Exactement. Pauline Cernels, qui d'ailleurs fait partie des marionnettistes Viens, on se tire. Ancienne étudiante du conservatoire et actuellement actrice dans tout le monde.
Vous êtes
aussi militante et féministe.
Vous êtes aussi allée à travers plusieurs générations.
Ouais, on a essayé ça.
On a essayé.
En fait, on s'est vite rendu compte aussi au début dans nos témoignages qu'on gravitait quand même autour de à peu près les mêmes âges et le même milieu, en fait, quoi. Et voilà, qui c'était nos amis, en fait, clairement. Et puis on s'est dit, ça va pas parce qu'on ça questionne pas ou ça ou enfin je veux dire ça met en avant une seule forme voilà, d'amour ou de réflexion, et en fait, c'était pas le but du tout, quoi. Et oui, comme vous disiez, on remet pas en question, en fait, c'est pas vrai, on remet pas en question, on ouvre des portes et on se dit, est-ce que la culture capitaliste n'a pas une emprise sur l'amour? Donc on a répondu oui à cette question, par contre, ça c'est vrai, mais qu'on voulait aller au-delà, quoi, enfin, de dire...
On parle aussi beaucoup de l'influence, justement, des médias, de la culture, du cinéma, qui,
absolument. Mais ça
qui uniformise un peu le langage de l'amour, parce qu'on reproduit un peu ce que l'on voit. Donc,
Mais complètement. Mais en fait, ça fait partie de la culture capitaliste. Donc c'est ça, vraiment. Donc, Pauline, mais toi aussi, en fait, t'es quand même un peu plus, en tout cas, au courant, de plus engagé, si on veut, depuis plus de temps, on va dire, sur ces questions-là, en fait. Mais en tout cas, Pauline est arrivée avec un prisme politique sur notre sujet. Donc nous, on est arrivés en disant « Mais comment ça se fait que tout le monde y se ressemble, et que c'est si fort, ce truc ?» Et elle est venue dire « Ah ouais, mais c'est ça, l'amour, c'est aussi de l'argent. » L'amour, c'est de la publicité. L'amour, c'est... En fait, ouais... j'avais un mot, mais je ne le trouve pas.
Et qui s'installe jusque dans nos lits, en fait. Quoi, voilà. On veut nous maîtriser jusque dans nos propres lits. Et voilà, et le mal s'installe jusque dans nos lits. Et...
Je dirais qu'on a des modèles. Sans jeu de mots. Jusque dans les performances à atteindre.
Oui, voilà. Et c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Et juste, on questionne et on essaye de se dire, est-ce que c'est ce qu'on veut pour nous ou pas? Vraiment, et sans, on essaye en tout cas d'avoir aucun jugement sur personne, sur aucun des témoignages qu'on a, qu'ils soient dans une norme ou pas.
Justement,
voilà.
Parce que c'est des témoignages et parce que les gens qui se sont livrés à nous ont eu du mal à se livrer et à un moment ont juste lâché les vannes. Et par respect pour ça, on essaye de ne pas porter de jugement. Et d'ailleurs, je ne pense même pas que ni toi ni moi n'avons un jugement, une vision exacte de ce qu'on voudrait dans l'amour, de ce qu'on voudrait pour notre vie, en fait.
Non, en fait, c'était trop chouette parce qu'on a pu se questionner, nous, en tant que personne, Nora, moi et Pauline aussi, quoi, sur nos relations à nous. Et...
Complètement.
C'était chouette.
Est-ce qu'on peut dire que la situation qu'on vit actuellement remet un peu certaines choses en question aussi?
Penses-tu? Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, ça a été un frein beaucoup de fois sur est-ce qu'on va faire un spectacle qui est capté, un truc qu'on veut partager avec le public ou le but, c'est de donner de l'amour maintenant en direct? Est-ce qu'on continue? Est-ce que... Et donc, on s'est dit que quand même,
quoi. Quand même, mais quand même, il fallait. Encore plus aujourd'hui que maintenant. Mais que voilà, c'était le petit frère ou la petite sœur du spectacle final, qu'on se laissait le temps, la liberté d'après de pouvoir continuer à travailler là-dessus. Pour l'instant, il y a 40 minutes que c'est, voilà, un premier jet d'une force vive pareille, évidemment, mais qu'on se laissait le temps de pouvoir vraiment venir rencontrer les gens, quoi, après aussi.
Et donc, pour avoir une vue un peu concrète de ce spectacle, parce que c'est vrai que c'est difficile à expliquer, comme il n'y a pas d'histoire, il y en a plusieurs, c'est du théâtre documentaire en plusieurs tableaux, si on veut. Chaque tableau vient rendre hommage, vient questionner, vient ouvrir des portes sur... avec plein de codes de jeu différents, parfois c'est du très réel, parfois c'est du sincère, parfois c'est du clown, parfois c'est on danse, enfin voilà, ça, on mélange un peu tout.
Donc c'est à découvrir, ça s'appelle Un morceau de joie, à découvrir le 30 avril
à
20h, toujours
sur... Et on s'amuse très bien.
S'inscrire sur...
Eventbrite,
jusque la veille, c'est ça. 24 heures avant, on peut encore s'inscrire sur l'événement. Il y a un événement Facebook, comme pour tous les projets, et on peut s'inscrire dessus.
Ou aller sur YouTube après, si on n'a pas eu le temps.
Oui. Ça, on peut. Enfin, je peux le redire encore bien que les spectacles peuvent être vus après la date et l'heure de diffusion. Quoi, ils restent en ligne pendant un long temps. Donc, c'est vrai que c'est cool d'avoir la communion le jour même, évidemment, mais pas de panique. Vous pouvez alors, retrouver les spectacles après.
Pas de panique, on arrive au bout de l'émission, il reste 2 minutes. Je peux peut-être mentionner qu'on peut encore découvrir des spectacles musicaux sur les comédies musicales aussi. Il y a un spectacle qui s'appelle Musibule.
Dans lequel je joue du piano d'ailleurs.
Un spectacle qui est aussi une réadaptation du récit de Jacob, hein, récit biblique. Ça s'appelle Falche, le 1er mai. On peut aussi découvrir des musiques traditionnelles avec des instruments iraniens, notamment le 1er mai, un spectacle qui s'appelle Floum. Je ne sais pas si le prononce.
Ah oui, c'est
Floum. S'appelle Floum. Un spectacle rythmique et verbal qui est entre slam et poésie polyphonique. Et encore aussi pour clôturer, un spectacle qui s'appelle Res Publica. Et ce sont des extraits d'opéra de Mozart. Alors, je vais vous demander de vous rappeler avant qu'on se quitte, tous les sites où on peut vous retrouver, donc sur le site du conservatoire, sur la plateforme YouTube et sur s'inscrire sur
Eventbrite.
Voilà.
Ouais. Vous avez les liens.
C'est
sur
le plus
Facebook.
Important pour pouvoir réserver un spectacle.
Il y a plein de pages avec les événements justement du festival. Donc chaque événement a son événement en Facebook et il y a toujours le lien qui est mis dans la description quoi. Donc voilà.
Ouais. Eh bien, merci d'être venu parler de ce festival. Je rappelle, merci. Festival Courant d'air, promotion des jeunes issus des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche et de très belles découvertes sur cette plateforme Eventbrite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.